L'étude menée par le Centre de recherche en santé mentale de l'Institut Douglas rapporte que 3016 personnes étaient en situation d'itinérance visible à Montréal durant la nuit du 24 mars 2015. En octobre de la même année, les principaux décideurs œuvrant dans le domaine de l'itinérance à Montréal se sont réunis à l'occasion d'un panel. Le but? Trouver ensemble des solutions pour mettre fin aux problèmes de l'itinérance. Un des principaux freins qui a été identifié par les dirigeants est le mythe selon lequel l'itinérance serait chronique et donc impossible à éradiquer. Or, il semble que d'après les résultats de l'étude menée par le Douglas, le phénomène de la chronicité n'affecterait qu'une faible partie de la population itinérante. En effet, selon le témoignage de Matthew Pierce, directeur de la Old Brewery Mission, seulement 5 % des itinérants qui fréquentent la mission seraient en chronicité. 80 % seraient des itinérants de passage et 15 % seraient épisodiques, c'est-à-dire qu'ils se rétablissent un temps puis récidivent. Aussi, qui sont ces 5 % Vraisemblablement, ce sont les oubliés du système. Ils sont parmi les plus vulnérables de la société. France Desjardins, directrice de la Maison du Père, fait un portrait de la situation.
Une chose qui me préoccupe encore plus, c'est, vous savez, on parle souvent de l'itinérance cachée, mais il y en a une qui est très visible et qui reste dans la rue et qui ne vient pas dans nos institutions. Alors, aller parler à ces gens-là qui ont fait de la rue leur univers, et d'essayer de trouver une façon pour eux de vivre de façon plus confortable et puis eux, peut-être que c'est leur décision de rester confortable, mais je pense qu'on va convenir que probablement que ces gens ont des graves problèmes de santé mentale. Ils sont très à risque dans la rue avec le climat que nous connaissons, entre autres. Et puis, c'est pas facile, là, la vie dans la rue. Alors, ça, c'est un très préoccupant.
Or, on apprend que plusieurs d'entre eux souffrent de toxicomanie ou d'un problème de santé mentale quand ce n'est pas les deux, ce qui les rend, pour ainsi dire, non éligibles au programme d'hébergement offert. Ce problème n'est pas unique à la ville de Montréal. Plusieurs villes d'Amérique, Toronto, Calgary, Vancouver, Boston, Philadelphie, New York, pour ne nommer que celles-là, ont identifié le même problème. Aussi, dans les années 90, un programme de logement, le Housing First, basé sur une philosophie de l'inclusion, a été créé à New York. Il s'agit d'un changement radical de perspective, le principe étant que les personnes itinérantes aient accès à un logement sans condition. Jusqu'à présent, des logements étaient offerts à ceux qui avaient atteint un certain niveau de rétablissement. En fait, on ne leur offrait pas de logement avant qu'ils aient démontré certaines aptitudes de vie. En 2009, tirant profit des données recueillies du modèle accordant la priorité au logement Housing First, le gouvernement fédéral a mis le projet à l'essai à travers le Canada sur une période de 4 ans. Au Québec, 460 personnes ont été mises à l'étude, dont 280 ont reçu un logement. En mars 2013, date de la fin du projet, 80 % de ces personnes habitaient toujours leur logement initial. Au moment d'enregistrer ces lignes, on ne sait pas exactement où on en est avec le projet chez soi pour ce qui est du Québec. Ce sera donc à suivre sur le site de l'organisme CREMIS, responsable du projet pilote.
Le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, CREMIS, peut être rejoint au cremis.ca. C'était un reportage de André Cousineau.